Chères auditrices, chers auditeurs de cette émission mensuelle de La Libre Pensée à laquelle les amateurs de Article 25 prêtent cette page, bonjour. Sont au micro Claudette Coudeville, Michel Garin, Henri Huil et moi, Michel Cadouche. Nous approchons du 11 novembre. Loin des commémorations officielles où sont célébrés le sacrifice et les souffrances de millions d'hommes et de femmes, aujourd'hui dans un contexte où des combats ont lieu en Ukraine et où a lieu une extermination au Moyen-Orient, la libre pensée s'attache à la lutte contre la guerre et le militarisme. C'est ce que notre ami Michel va aborder. 11 novembre. La guerre a donné lieu à de nombreux chants pacifistes. Michel va aussi nous en parler. Vous avez pu aussi découvrir la déclaration du pape, il va nous en faire une à Bruxelles, concernant l'IVG. Bon, c'est le moment de se demander ce que recherche l'Église catholique et comment elle opère. Ce dont nous entretiendra Henri. Enfin, Claudette interviendra sur la déclaration du collectif pour l'école publique. Michel, que dit l'intervention qu'a proposée la direction de la Libre Pensée aux fédérations départementales et aux groupes de fer?
Oui, chers auditeurs, bonjour. Alors, la Libre Pensée, l'année dernière, dans nos discours, qu'est-ce que nous déclarions? Nous déclarions d'abord, chacun le ressent, nous sommes désormais dans une situation inquiétante, ce monde inquiet sans la poudre. Les générations actuelles n'ont jamais connu ce vent de guerre tel qu'il souffle aujourd'hui. Un malaise étreint toute la société. C'est la même angoisse que la montée des périls à partir de 1933. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La recherche de profits immenses pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inévitable. Tout est méthodiquement organisé pour cela. Quand la crise vient, dans toutes ses dimensions, quand les gouvernements sont haïs et rejetés par les populations, pour les capitalistes et impérialistes, la guerre est toujours la solution pour préserver leur pouvoir et leurs intérêts. Voilà ce que nous disions donc l'année dernière dans nos discours. Il s'avère que c'est toujours d'actualité. La libre pensée dénonce la militarisation croissante dans la société, l'économie, l'adaptation de l'armée à la situation nouvelle, la militarisation de l'école, l'alignement sur l'OTAN, des budgets militaires en hausse exceptionnelle et exponentielle, 413 milliards pour la seule loi de programmation militaire. Tous les ingrédients sont là sur un fond où l'impérialisme français perd ses positions coloniales ou post-coloniales à l'étranger, les unes après les autres. Il suffit de voir la triste palinodie de la conférence du Liban à Paris, il y a peu, où les deux principaux protagonistes du conflit, Israël et Iran, sont absents pour s'en rendre compte. Il faut la guerre à Emmanuel Macron, agent de la finance et du capitalisme, pour tenter de reprendre des parts de marché. C'est aussi la militarisation de la jeunesse par la mise en œuvre du service national universel qui s'avère chaque jour comme un échec retentissant et un véritable gouffre financier. Chaque semaine, on apprend un scandale lié au SNU. Même Le très à droite média Le Point le dit dans son édition du 21 octobre 2024. Budget 2025. Et si on supprimait le SNU ? En phase de test, le service national universel coûte cher sans atteindre ses objectifs. Sa généralisation nécessite entre 3,5 et 5 millions d'euros par an. Les opposants au SNU sont chaque jour plus nombreux et plus déterminés que jamais à en finir avec cette ode permanente à l'armée, aux uniformes, à la discipline militaire. Chacun comprend que cette volonté de militarisation croissante de la jeunesse et de la société ne peut que conduire à la guerre. Sinon, à qui serviraient l'armée et les généraux ? La crise est nationale et aussi internationale. Aujourd'hui, la barbarie se déchaîne au Moyen-Orient et en Ukraine. On est frappé de stupeur par les chiffres annoncés. 600 000 Russes, 480 000 Ukrainiens, le bilan humain de la guerre en Ukraine dépasse le million de morts et blessés. 41 000 morts, dont plus de 16 000 enfants et plus de 96 000 blessés à Gaza, en Palestine. Au moins 2 546 personnes auraient été tuées, dont 127 enfants, depuis octobre 2023. 11 862 autres auraient été blessés, dont 890 enfants au Liban, depuis l'agression de l'État sioniste d'Israël. Plus de 400 millions de femmes et d'hommes vivent aujourd'hui au Moyen-Orient, soit 5,5% de l'humanité. À Gaza et à Beyrouth, c'est l'humanité qu'on assassine, comme en Ukraine. On assiste à des tueries de masse qui recommencent pour des questions de territoire. Rappelons que le mot « sacrifice » vient d'une racine latine qui veut dire « faire du sacré ». On voit que dans ces guerres, la dimension religieuse est bien présente et prégnante. Leur sacré religieux est sanctifié par le sang des populations que l'on assassine et que l'on sacrifie pour des intérêts sordides. Le génocide du peuple palestinien rappelle aussi celui du million de tziganes par les nazis et celui des milliers de prisonniers soviétiques sur qui furent expérimentés pour la première fois le Zyklon B en 1941, qui assassina ensuite des millions de juifs dans les camps d'extermination à partir de 1942. Dans le même temps, les génocidaires veulent faire taire la presse en assassinant systématiquement les journalistes palestiniens et arabes par le crime pour rester impunis, doit rester silencieux et surtout sans témoin. Et dans le même temps, leurs complices, qui ont aussi du sang sur les mains, discutent et colocutent à l'infini pour contester le terme de génocide à Gaza contre le peuple palestinien pour justifier la guerre de Netanyahou. Même le pape François, pourtant apôtre de la théorie de la guerre juste, ses prédécesseurs, lui ont laissé cela en héritage et est obligé d'en convenir. Dans son discours du 10 janvier 2022 aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, c'est la formule exacte, il déclarait, je cite, « Le dialogue et la fraternité sont plus urgents que jamais. Tous les conflits sont facilités par l'abondance des armes. Celui qui possède des armes finit tôt ou tard par les utiliser, car on ne peut pas s'aimer avec des armes offensives dans les uns. » Fin de la citation. Vous voyez que la libre pensée n'est pas sectaire. On cite même le pape dans un discours pacifique. Je vous conseille, à ce titre-là, concernant cette histoire, je vous conseille de regarder sur Planète Plus en replay un documentaire en trois parties sur le procès d'Eichmann à Jérusalem. C'est édifiant. Il est montré que pour avoir la bombe atomique contre les pays arabes, Israël a négocié avec la RFA, République fédérale allemande, pour avoir accès à sa technologie et aussi de la France et de Gaulle. Les révisionnistes d'aujourd'hui ont une longueur d'avance et aussi un gros problème sur ce d'hier. C'est que le génocide est encore en cours et qu'il y a des témoins, des victimes, des survivants, des preuves. Et ils devront répondre de leur complicité de crimes contre l'humanité. Le sang des 16 000 enfants palestiniens ne s'effacera pas. Il leur restera toujours sur les mains. La libre pensée sera toujours aux côtés du peuple palestinien pour ce droit de vivre sur sa terre. Elle participe et participera encore à toutes les initiatives unitaires contre la guerre, contre l'économie d'armement, contre le SNU et pour la défense des libertés. C'est pourquoi la libre pensée dénonce la politique de répression du gouvernement Macron-Darmanin qui entend interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. La libre pensée condamne ces interdictions de manifester notre solidarité et appelle à y participer sous la forme que chacun choisira librement. La libre pensée réaffirme sa totale solidarité avec le peuple palestinien et son droit légitime et indéfectible à rester et reprendre sa terre. Aujourd'hui, l'épicentre de la répression macroniste se concentre à Montpellier contre les défenseurs du peuple palestinien soumis à un génocide. La libre pensée, avec le mouvement boycott des investissements de sanctions, subit une répression accrue menée par un préfet qui a déjà traîné devant les tribunaux pour avoir interdit des manifestations qui ne lui plaisent pas. Un véritable autocrate comme... Excusez-moi. Je suis un peu perdu. Bon, donc un véritable autocrate contre Maître Macron. Il vient de déposer une plainte pénale contre notre camarade Alban de Souterre, responsable de la libre pensée de l'Hérault, pour avoir lu à la fin d'une manifestation la Déclaration nationale de la libre pensée en soutien au peuple palestinien. Le préfet est le représentant de l'État et de son gouvernement. Cette plainte pénale est donc désormais une affaire d'État. La dernière fois que l'État s'en est pris à la libre pensée, c'était en novembre 1940, quand Pétain et le régime de Vichy ont dissous et interdit quasiment en même temps la libre pensée, les confédérations syndicales et les obédiences maçonniques. On voit que la Macronie a de bien curieuses références et une nostalgie certaine, et on comprend qu'Emmanuel Macron fasse fleurir et honorer Pétain aux Invalides, ceci expliquant cela. Nous combattons la guerre et l'économie d'armement qui ne peut conduire qu'à la guerre généralisée. C'est aussi pourquoi nous ne cesserons d'agir pour la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Rappelons qu'en 1917, au moment des mutineries, il y eut 450 condamnations à mort prononcées par les conseils de guerre. 27 soldats furent fusillés et 1500 furent condamnés lourdement. Le sang des 639 fusillés pour l'exemple coula dans les mêmes rigoles que celle des millions de morts dans les tranchées. Le sang unissait les victimes, l'injustice séparait les hommes. C'est fidèle à ce combat pacifiste international que la libre pensée, avec beaucoup d'autres à ses copies, combat pour la réhabilitation des 639 fusillés pour l'exemple de 1914-1918. Ici, tout est symbole. Nous voulons réhabiliter ceux qui, hier, ont dit non, pour que l'on puisse dire non à la guerre aujourd'hui. Nous avons obtenu une première victoire par le vote à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi à l'initiative du groupe parlementaire de la France insoumise, mais le Sénat l'a refusée ensuite. Nous recommencerons sans cesse jusqu'à la victoire. Nous n'avons jamais été aussi près de gagner cette bataille de justice. Mais nous avons tous ensemble la force irréversible et puissante d'en finir avec cette répression d'État et avec le régime qui va avec. Nous vous appelons à signer massivement l'appel qui a reçu des milliers de signatures en solidarité avec notre camarade de l'Hérault et contre la libre pensée. Je vous invite à aller sur le site www.lp3 où vous trouverez le nécessaire pour signer cette pétition. Nous appelons toutes les organisations, associations, syndicats, partis à prendre la solution pour cela et à faire connaître largement leur prise de position. Amis, citoyens, compagnons, camarades, on n'a pas fini d'entendre à nouveau dans ce pays, dans les villes, les villages et les campagnes, dans les usines, les bureaux et les chantiers, dans les écoles, les lycées et les universités de France et dans bien d'autres pays, le mot d'ordre universel des combattants de la liberté humaine, ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale.
Bien, Michel, tu viens de dresser un tableau... qui, dans beaucoup d'aspects, provoque l'indignation, et en particulier celle de chanteurs et musiciens. Peux-tu faire quelques commentaires, s'il te plaît ?
Des commentaires sur les chansons pacifistes, oui. Alors, le domaine de la chanson populaire sur la paix ou sur le thème de l'antiguerre s'avère un territoire presque impossible à parcourir dans son entier, tellement sa diversité, sa richesse et sa profondeur regroupent 1000 dimensions. La problématique liée à la guerre et à la paix, comme source d'inspiration, peuvent nous conduire à des recherches sans fin. Le champ est très vaste, tout particulièrement si nous prétendions à inventorier toutes les œuvres connues dans le monde. De tout temps, et tous les pays en guerre ont été sujets de chansons pacifistes et anti-guerre. Déjà, les troubadours chantaient pour dénoncer les horreurs d'une guerre médiévale, et que dire des chants des soldats qui ont inventé des chansons dans les tranchées ou des prisonniers dans les camps de concentration. Alors nous pouvons citer quelques chansons, bien sûr, c'est un petit truc. D'abord, comme on a parlé des soldats dans les tranchées, il y a, on peut dire en tête, la chanson de Grand Homme, hein, qui était sortie en 1918. Ensuite, comme chanson, on peut noter plusieurs, la Butte Rouge, Giroflée, Girofla, qui est la Marseillaise de la paix aussi, de Rouget de Lille, Gloire au 17e aussi, de Gaston Monteus. Il y a aussi d'autres chansons, Non, 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 plus de combattants en 1917, Non, pas ça, pas la guerre en 1932, La Perle à révolte en 1904. Ça, ce sont des dates qui sont anciennes, mais il y en a quand même des plus récentes. Hein. Il y a Göttingen par Barbara en 1964. Il y a également Hiroshima par George Moustaki en 1972. La paix sur terre en 1991. Manhattan Kaboul, également par Axel Red et Renault en 2001. On écrit sur les murs également par Demis Roussos. Alors, je vais pas, comme bien entendu, comme je viens de vous le dire, on n'a pas de. Il y en a bien d'autres, hein. Même chez les Anglais, on imagine par exemple de John Lennon en 1971. Hein, on veut la paix également par James Taylor. Bon, donc il y en a toute une flopée comme ça. Donc, bien entendu, il nous a fallu, pour l'intermède, il nous a fallu choisir une chanson dans celle que je vous ai citée. Et donc, dans les listes des chansons que je vous ai données, il y en a une qui n'y est pas, bien entendu, parce que je vais la passer maintenant. C'est Le Déserteur de Boris Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Bien, merci Michel d'avoir traité ce sujet d'une importance considérable, puisque nous le vivons en ce moment. Maintenant, je vais me tourner vers Henri pour lui demander, à propos de l'Église catholique et de l'offensive qu'elle mène de plus en plus forte, quelles sont les manifestations et quelles conclusions il en tire. Henri, s'il te plaît.
Merci Michel. Bonjour à tout le monde, merci d'écouter ce que nous racontons. Alors voilà, nous avons appris il y a peu de temps que le pape François, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, s'est rendu à Bruxelles en fin septembre 2024. Et c'était lors d'un de ses voyages à l'ambiguïté soigneusement entretenue. Présenter ses voyages tantôt comme voyage privé, tantôt comme voyage apostolique, tantôt comme visite d'un chef d'État, selon qu'on veut disqualifier la critique, se draper dans le respect dû à une religion, tout en prenant des positions politiques ultra-réactionnaires, ou bien simplement pomper de l'argent public. Chaque chose en son temps, comme on dit, mais tout dans le même mouvement quand même. L'Église catholique en Belgique, comme dans bien des pays, baigne dans un fort sentiment de déclin. Baisse de plus de 30% du nombre de prêtres en quelques années. En 5 ans, moins de séminaristes, qui sont les étudiants en prêtres, qui sont en chute libre en fait, pas forcément les étudiants, mais en tout cas leur nombre, forte baisse de la pratique, puisque on définit les pratiquants d'une religion, catholique en particulier, comme ceux qui vont à la messe au moins une fois par mois. Ce qui, quand on est croyant, me paraît pas beaucoup. Enfin bon, on pense qu'un pratiquant, c'est quelqu'un qui va à la messe au moins une fois par mois. Et en Belgique, ils ne sont plus que 8,9%. Vous me direz, c'est toujours beaucoup plus qu'en France. Si vous me dites ça, je vous dirai que vous avez raison. Puisqu'en France, c'est beaucoup moins. Toutefois, en Belgique, il y a un système de financement qui fait que les cultes reconnus sont financés par l'État. Et les cultes qui ne sont pas reconnus ne sont pas financés du tout, évidemment. Ce système offre un certain confort à une Église qui n'a pas à lutter pour survivre. C'est une citation que je fais du journal La Croix. Vous voyez, j'ai de saintes lectures. À la question, qu'attendre de la venue du pape François en Belgique, un paroissien belge aurait répondu, si c'était dans les journaux belges, nous espérons qu'il nous confirmera, pardon, dans ce nouvel élan plus missionnaire, que sa visite puisse participer à changer l'image de l'Église en Belgique. Alors on peut dire que le gars, il n'a pas été déçu du voyage, puisque les déclarations du pape ont créé un barouf, je dirais, considérable dans ce pays, qu'on nous présente comme un des bastions du catholique, ce qu'il a été jadis, mais comme la France qu'il n'est plus depuis longtemps. Dans le cadre d'une rencontre avec des étudiants et enseignants de l'université catholique, j'insiste sur l'adjectif catholique de Louvain, qui est une université très célèbre, le pape a déclaré « La femme est un accueil fécond », c'est le mot exact, « et un dévouement vital ». Propos immédiatement dénoncé, mais le jour même, par les responsables catholiques donc, de l'université catholique de Louvain, qui ont dénoncé cela comme des propos, comme une position déterministe et réductrice. Le petit commentaire que je me permets, c'est il y aurait donc du rififi dans les bénitiers. Devant la tombe du roi Baudouin, l'ancien roi des Belges, le pape a salué la désapprobation par ce souverain belge, Baudouin, de l'IVG, qui le roi qualifiait, le pape a requalifié à nouveau, à l'occasion de son voyage, cette loi, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, comme une loi meurtrière. Alors ça a eu des échos scandalisés dans tous les organes de presse. Il y a eu toute une série de personnalités qui ont pris position pour contredire les propos du pape. Et à la conférence de presse, le pape fait ça. À chaque fois qu'il fait un voyage, alors tantôt, comme j'ai dit, apostolique, tantôt un voyage privé, tantôt une visite de chef d'État. Parfois, c'est les trois en même temps, on ne sait pas trop. C'est ce qui s'était passé à Marseille il y a un an, hein, à peu près. On ne savait pas trop à quel titre il était là et à quel titre il s'exprimait. Donc, il fait ça. Il fait une conférence de presse dans l'avion du retour. C'est en général là qu'il tient les propos qui sont les plus révélateurs de sa véritable position. Donc, il a déclaré, d'après la radio-télévision belge francophone, RTBF, donc c'est pas moi qui le dis, hein. Il a déclaré, le pape, qu'un avortement est un homicide. Les médecins qui font cela sont, si vous me permettez l'expression, dit le pape, des tueurs à gages. Donc on voit que c'est une prise de position tout en nuances, entièrement progressiste, tournée vers l'homme et le message d'amour, patali patalère. L'IVG, c'est un meurtre, en définitive, un homicide, et les médecins qui pratiquent l'IVG, des tueurs à gages. Ce qui n'est pas tout à fait rien comme déclaration, puisque on peut imaginer que quelqu'un d'un peu à l'esprit un peu tourmenté, ou très préoccupé par les questions d'application de la foi, pourrait prendre ça en quelque sorte comme une consigne pour en finir avec ces crimes abominables et ces tueurs à gages odieux. C'est ce que font, par exemple, beaucoup de fondamentalistes protestants, là en l'occurrence, dans des pays comme les États-Unis, où il n'est pas rare que des médecins ou des infirmières se fassent tirer dessus, voire se fassent assassiner. Il n'est pas rare que des cliniques soient occupées, qui pratiquent l'IVG, soient occupées par des bandes de types en armes, etc., etc. Donc, à l'initiative de Bernard DeVos, qui est un citoyen belge, qui est ancien, qui a la particularité d'être ancien délégué général aux droits de l'enfant. Si vous voyez ce que je veux dire, 524 personnes souhaitant être débaptisées ont publié une lettre ouverte pour dénoncer la, j'ouvre les guillemets, deux points, ouvrez les guillemets, la réponse tiède face aux violences commises par certains membres du clergé à l'encontre des enfants et des femmes, et l'absence de mesures concrètes pour accompagner et dédommager les victimes. En clair, c'est une dénonciation pratiquée par des gens qui se font débaptiser, donc en l'occurrence, c'est une dénonciation des crimes de pédophilie dans l'Église, des crimes de viol, y compris de viol de religieuses, qui sont attestés dans des dizaines de pays dans le monde maintenant. Ces événements... Alors pourquoi, on va me dire, pourquoi tu parles de ça? Puisque la Belgique, ce n'est pas forcément de l'actualité locale. Non, c'est de l'actualité intéressante, les déclarations du pape. Parce que ces événements rappellent donc aux habitants des Bouches-du-Rhône, notamment ceux de Marseille, la venue du pape l'an dernier, venue qui a été propulsée à grand renfort d'argent et de moyens publics. Il y a eu une multiplication de coups de com' à la télévision, sur les chaînes locales, sur les chaînes nationales, en expliquant que c'était un grand homme, qu'il avait un message de paix, de patati, patalère et patala, ce qu'on appelle des coups de com', médiatico, politico, religieux, en la circonstance. Et ça a été évidemment propulsé, tout ça, il faut dire les choses, par la Trinité, païen, vassal, muselier, qui est à la laïcité, en gros, ce que l'eau bénite est au cru des Côtes-du-Rhône. C'est-à-dire que ça n'a strictement rien à voir. Rappelons que le pape étant à Marseille, la Fédération de la Libre-Pensée des Bouches-du-Rhône, dont nous sommes les porte-parole ici aujourd'hui, a organisé avec succès, au théâtre Tourski, une conférence pour la défense et la promotion de la loi de séparation de 1905, qui est la loi de 1905, qui fait partie du bloc constitutionnel des lois de la République, qui établit que la liberté de conscience, chaque citoyen est libre d'avoir les convictions religieuses qu'il veut et la pratique religieuse qu'il veut, sans qu'il y ait de religion privilégiée et de religion défavorisée. Et pour ça, cette loi établit que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, Je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire quand je cite cette loi. Et donc, ça a été un succès assez important. On va profiter aujourd'hui de ce petit rappel un an après pour rappeler que, avec un peu de rigolade et un peu de cruauté quand même, que ce jour-là, certains laïcs, entre guillemets, que nous attendions à ce rassemblement pour la défense de la République laïque en France, disons que chez eux, ne sont pas venus. Le souci de discrétion l'a donc emporté sur la nécessité du courage ce jour-là. Voilà, c'était un peu un rappel qui paraissait intéressant à faire sur la situation à Marseille en regard des déclarations du pape aujourd'hui le mois dernier à Bruxelles. Ensuite, je voudrais dire juste un mot très très rapide, pour pas abuser du temps d'antenne, un mot très rapide sur un événement qui a eu lieu au Pilon du Roi il y a quelque temps, mais on y reviendra le mois prochain, un maire qui s'était illustré en se rendant en tant que tel, en tant que maire de sa commune, avec d'autres collègues, s'était rendu en visite auprès du pape. Là, c'était pareil. C'était à la fois, c'était un pèlerinage. Bref, ils sont allés en pèlerinage pour pratiquer leur religion. Simplement, ils ont fait passer ça comme si c'était un objectif municipal. Voilà, c'est ça qui est pas bien. C'est la confusion des gens. Ça, c'est pas bien. Et là, ce brave homme dit toujours pareil. Hein, le pape, on est allé le voir parce qu'il est porteur d'un message d'espérance pour l'humanité, d'espoir, patali patala. Ils ont remis en place une croix qui avait été mise en place en 45, mais on y reviendra le mois prochain. Et une grande croix au pilon du roi, 5 mètres de haut. Enfin voilà, et la cérémonie qui a été organisée par ce maire, donc apparemment, il a fait venir des personnalités qui ont le sens de l'humain et de la fraternité, puisque parmi les invités, il y avait le sénateur Ravier, qui est un sénateur d'extrême droite, et qui d'ailleurs, à titre personnel, est extrêmement à droite. Quand on lit ses discours, il est... Et puis aussi le député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône qui s'appelle José González, pour la petite histoire. Voilà, donc tout ça, c'est. Cette croix aurait été érigée en 1945 pour célébrer la victoire, etc. C'est curieux de célébrer l'effondrement du régime maréchaliste de Pétain. Le régime de collaboration avec de tels personnages qui sont les héritiers d'un courant politique qui ne s'est pas particulièrement illustré dans la résistance. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, donc je propose que nous passions un morceau de musique qui s'appelle Fionnuala O'Connor.
Alors non, ça c'est la chanteuse.
Ah pardon.
Et d'ailleurs son nom c'est Sinéad O'Connor. Alors juste un mot très rapide sur cette chanteuse. C'est une chanteuse irlandaise qui chante beaucoup de chansons, qui chantait, puisqu'elle est décédée maintenant, qui chantait beaucoup de chansons en anglais, assez souvent en gaélique aussi, qui est la langue originelle, si on veut, de l'Irlande. Et l'Irlande, c'est un pays qui a une culture dans laquelle il y a une mainmise extrêmement catholique. Je parle de l'Irlande du Sud, de ce qu'on appelle la République irlandaise. L'Église catholique, il y avait encore il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, un poids considérable. Et justement, elle s'était tout à fait insurgée, elle s'était fortement indignée, Sinéad O'Connor, contre une déclaration du pape de l'époque. C'était pas le même, mais les papes changent, la position reste la même. C'est l'IVG, c'est un crime. Et les médecins qui font ça sont des tueurs. Voilà, c'est en gros leur position. Et elle avait donc pris la parole très fortement à la télévision, à la radio, tout ça, et pour contredire et condamner les propos du pape. Et évidemment, l'Église irlandaise lui a fait payer ça très 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 cher, puisqu'ils ont essayé de tout faire pour faire capoter sa carrière. Plus de passages à la radio, plus d'interviews dans les magazines People, tout ce qu'il faut pour organiser le grand boycott. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, par esprit de résistance, nous diffusons aujourd'hui cette chanson de Sinéad O'Connor.
La chanson celle que vous allez entendre, la version, c'est la version qu'elle avait fait a cappella lors du concert de Bob Marley.
until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war until there's no longer first class or second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. I've got to say war, that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, I say war. Until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remain just a fleeting illusion to be pursued but never attained. And everywhere is war until the ignoble and unhappy regime which holds all of us through child abuse, yeah, child abuse, yeah, subhuman bondage has been toppled, utterly destroyed. Everywhere is war, war in the East, war in the West, war up North, war down South, there's war. And the rumors of war. Until that day, there is no continent which will know peace. Children, children, fight. We find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil.
Oui. Eh bien, nous, vous avez pu aussi constater que l'Église catholique n'est pas indifférente aux questions financières et en particulier en ce qui concerne les écoles qu'elle gouverne. Donc, il y a un collectif pour l'école publique qui s'est créé, dont la Libre Pensée est participante. Et en particulier, elle a signé la déclaration de ce collectif. Bon, Claudette, peux-tu nous faire le point sur cette déclaration ?
Oui, alors... Bonjour. Oui, avant cela, je vais reprendre sur le travail qu'on a commencé à faire à la Libre Pensée concernant le financement public des écoles privées. Dans notre précédente émission sur cette antenne, nous avions informé du travail donc, que nous réalisions pour donner un éclairage à l'état des financements publics qui étaient versés dans les Bouches-du-Rhône, afin de lever le flou sur ces financements qui avaient été soulignés d'ailleurs, tant pour les versements de l'État que ceux des collectivités locales, dans le rapport parlementaire émis par les députés Vanier et Weisberg au début de l'année 2024. Alors nous allons vous présenter aujourd'hui un état de ce que nous avons trouvé pour le financement des lycées privés dans les Bouches-du-Rhône. Et ensuite, donc, je vous parlerai du collectif pour l'école publique qui s'est constitué. La compétence sur les lycées ayant été attribuée aux conseils régionaux, c'est donc le conseil régional PACA, présidé par M. Muselier, qui finance les lycées publics et privés des Bouches-du-Rhône. L'état des lieux montre qu'il y a autant de lycées privés sous contrat dans les Bouches-du-Rhône que de lycées publics. 62 pour chacun. 39 lycées d'enseignement généraux sont publics et 47 lycées du même type sont privés. 23 lycées professionnels sont publics et 25 lycées professionnels sont privés. 64,5% des lycées privés sous contrat sont confessionnels. Et 90% de ces établissements confessionnels sont catholiques. Au total, 25,9% des lycéens du département sont scolarisés en lycée privé sous contrat, soit 18 797 élèves, pour un taux largement supérieur à la moyenne nationale. En rapprochant ces chiffres au nombre d'établissements, on constate qu'il existe un établissement général public pour 1006 élèves, tandis que dans le privé, le ratio est de 1 pour 273. On s'entasse beaucoup dans les lycées d'enseignement généraux, pas vraiment dans les lycées privés. Concernant les lycées professionnels, le ratio public est de 1 pour 633, tandis qu'il n'est plus que de 1 pour 395 pour le privé. Les financements versés par le Conseil régional aux établissements privés sous contrat, à cause de la loi Debré, sont en augmentation. Et chaque année, davantage. Le Conseil régional de PACA fait voter chaque année donc une première dotation de fonctionnement, dite forfait d'externat, intégrant des parts matérielles et personnelles non enseignants. Il faut noter qu'aucune délibération pour la part matérielle ne mentionne de forfait par élève, ni les effectifs des établissements pris en compte, ni la liste de ce qui est pris en charge. Pas non plus le résultat des votes de ces délibérations. À ce forfait, le Conseil régional fait voter tout au long de l'année d'autres subventions numériques et éducatives, accès au débit, aide au premier équipement et toute une autre série d'éléments qui varient selon les années. Ainsi, pour 2023, il a versé 18 098 000 euros, soit pour la part matérielle 8 786 000 euros 240 et pour la part personnelle 9 312 000. Entre 2020 et 2021, 2024, le forfait a progressé de 24% pour la part matérielle et de 12% pour la part personnelle, alors même que les effectifs des lycées ont baissé, eux, pour cette période, de 14% pour le privé. À cela, il faut ajouter 80 122 euros de participation à l'équipement de protection individuelle des élèves, 184 417 pour le premier équipement en lycée professionnel, soit au final un total pour le fonctionnement de 18 360 400 euros. Et ce n'est pas fini pour l'année 2024, puisqu'elle n'est pas terminée, et que chaque année, aux alentours du mois d'octobre, le Conseil régional ajoute de nouvelles subventions. Comme nous l'avons dit, pour l'accès au numérique au débit ou très haut débit, ou pour d'autres choses encore. En octobre 2023, par exemple, il avait versé 56 620 euros pour le très haut débit. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc cette part-là est rendue obligatoire par la loi Debré. Par contre, s'ajoutent des subventions d'investissement. Ces subventions s'appuient sur la loi Falloux, varient d'une année sur l'autre, assurant l'amélioration du foncier et des équipements des établissements de l'enseignement privé qui s'enrichissent avec les fonds publics. Ainsi, le Conseil régional, en 2024, a versé 1 986 000 euros d'investissement, 737 000 pour des travaux de réhabilitation, de reconstruction, du matériel d'entretien, des remplacements de tatami, etc. 698 900 € pour des travaux de mise en sûreté, matériel incendie, remplacement de chaudière, mise en conformité, achat de matériel informatique, équipement audiovisuel, mobilier, équipement en tout genre. Les enseignants du public qui courent après de simples réparations apprécieront. 698 000 € pour des travaux de mise en sûreté, du matériel incendie, j'en ai déjà parlé. 550 000 € pour la construction de nouvelles classes et de nouveaux locaux. C'est un total, toutes subventions confondues, pour l'investissement, de 20 349 600 euros pour cette année 2024. Sur 4 ans, pour le seul forfait d'externat, c'est la somme de 67 883 000 euros qui auront été versés pour les établissements privés. De quoi construire cash, sans recours à aucun crédit, un grand, très grand lycée public, ou subvenir largement à l'entretien ou à la réhabilitation des lycées publics de notre département, à propos desquels un rapport du César PACA de 2020 déplorait un manque d'entretien du bâti. Mais il faudrait pour ça que l'argent public ne soit réservé qu'à la seule école publique. Ce qui pose une question. Comment on peut faire? Comment y parvient-on? Comment peut-on arrêter ces financements? Les attaques portées contre l'enseignement public de la ministre Oudéa Castéra en début de l'année 2024 a eu pour effet de faire surgir tous les dossiers noirs de l'enseignement privé et de réveiller l'exigence maintenue très longtemps en sommeil pour que tous les fonds publics n'aillent qu'à la seule école publique. Cette exigence avait été formulée en 1960 par les laïcs rassemblés à Vincennes, porteurs d'une pétition de plus de 1 million de signataires contre la loi Debré qui venait d'être votée. Ils l'avaient formulée en jurant notamment de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu'à son abrogation et d'obtenir que l'effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse. Sortir du financement public de l'enseignement privé nécessite l'abrogation de la loi Debré. Mais on pourrait répéter abrogation de la loi Debré pendant des lustres sans changer quoi que ce soit. La question qui est posée, je l'ai dit plus haut, est maintenant comment fait-on? C'est-à-dire comment passe-t-on à la réalisation concrète de cet objectif? Après les déclarations de la ministre, donc, un collectif national impulsé par la FSU, composé du CNAL, de Solidarité Laïque, de la CGT, de l'UFAL, de la Ligue de l'Enseignement, de la Ligue des Droits de l'Homme et de la Fédération Nationale de la Libre Pensée s'est réunie. Une fois posée l'exigence commune pour l'abrogation de la loi Debré, la question du comment faire et donc de la nécessité d'un plan a surgi. La Libre Pensée a fait une proposition de plan de sortie prévoyant 3 projets de loi accompagnant ce plan, des notes sur la question du personnel de l'enseignement privé basculant dans le public, une note indiquant qu'il n'y avait aucune indemnisation à faire à l'enseignement privé s'il y avait rupture des contrats, ainsi que le prévoit la loi Debré. Les discussions se poursuivent et le collectif vient de diffuser un nouveau communiqué, donc je vais vous lire quelques extraits. Donc, dans le cadre juridique inédit depuis 30 ans, les organisations signataires de la tribune parue dans Le Monde du 30 janvier 24 pour que l'école publique laïque gratuite et obligatoire soit la priorité du pays travaillent à la construction d'un plan de sortie du financement public de l'école privée. Face aux crises profondes, il est plus que jamais nécessaire de faire société. L'école publique laïque doit donc recevoir les moyens de ses ambitions civiques et intellectuelles. Redonner espoir et ambition à toute la jeunesse dans tout le pays nécessite de concrétiser partout les visées émancipatrices de l'école publique laïque. Faute de moyens et d'ambition pour son développement, faute d'une défense véritable face aux attaques qu'elle a subies de la part des réactionnaires de tous bords, elle est aujourd'hui malmenée. Il est urgent que la République soutienne pleinement son école, la seule école de la jeunesse vivant dans ce pays. Ces derniers mois, l'incongruité de la gestion de ce financement est apparue clairement, si ce n'est même dans certains cas son illégitimité, voire son illégalité, démontrant les fortes disparités en termes de mixité sociale entre public et privé sous contrat. Le rapport de la Cour des comptes de juin 2023, et notamment le rapport Vanier-Weisberg d'avril 2024. Le communiqué se conclut ainsi. Afin d'élaborer une ou plusieurs voies de sortie de ce financement, nos organisations conçoivent ces plans de manière collective et partagée. Notre but est qu'ils soient réfléchis en tenant compte du cadre constitutionnel et juridique, mais aussi qu'ils respectent les droits de chacun. Nous travaillerons avec des parlementaires, des spécialistes qui voudront s'associer à notre démarche. Ensemble, nous porterons notre projet auprès de l'opinion publique, des élus et des gouvernements pour construire le rapport de force nécessaire à sa réalisation. C'est signé de la FSU, de CGT Éducation, Sud Éducation, UNSA Éducation, FCPE, CNAL, Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, Convergence nationale service public, Fédération nationale des DDEN, Fédération nationale de la libre pensée, Solidarité laïque, EGAL, Comité de réflexion et d'action laïque, CREAL 76, Fédération nationale des Francas, Union des familles laïques, Association des libres penseurs de France, EEDF, Éclaireurs de France et l'Union rationaliste. Je vous remercie.
Bien. Eh bien, écoute, après ces précisions tout à fait intéressantes, je propose que nous passions une chanson de Julien Clerc qui s'appelle « Mademoiselle ».
Oui. Oui, en fait, il s'agit d'une chanson donc interprétée par Julien Clerc et qui a été coécrite par Didier Barbulien, que l'on trouve dans son album nommé « Terrien » qui est paru en 2021. Alors, pour présenter la chanson, je vais laisser parler Julien Clerc qui disait lors d'un plateau d'Europe 1, ce sont des paroles de Didier Barbulien qui parlent de ces gens à qui nous devons tout, parce que ce sont les gens qui nous font rentrer dans la vie. C'est une chanson pour les institutrices.
Mademoiselle qui m'avait appris les rois de France et mon pays, les grandes cités industrielles, les montagnes, les neiges éternelles, ma reconnaissance infinie. Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine, vous avez embelli ma vie. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris que la liberté a un prix pour les chiens et les papillons, pour les hommes de toutes conditions, je pense à vous dès que j'écris. Mademoiselle qui m'avait appris à ne pas confondre les cris des marchands de révolution avec le peuple pour de bon, je me dois de vous dire merci. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris les rois de France et mon pays, les grandes cités industrielles, les montagnes, les neiges éternelles, ma reconnaissance infinie. Le son de votre voix me faisant la leçon. Je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine, vous avez embelli ma vie. Vous avez embelli ma vie.
Oui, bien. Après ceci, je vais vous faire quelques annonces. Les premières concernent, bien entendu, l'activité de la Libre Pensée autour des commémorations du 11 novembre. Donc, je peux vous citer le fait qu'à Arles, le 15 de ce mois, il va y avoir une réunion avec, d'ailleurs, co-organisée avec la Ligue des droits de l'homme. Je vous invite à vous rapprocher des Libres Penseurs d'Arles pour avoir plus de précisions. À Marseille, il va y avoir le 23 à 10h le matin, à la Cité des associations, et la présentation d'un livre sur le bombardement qui a eu lieu à Marseille le 27 mai 1944, vu de la manière dont l'ont subi les habitants. Ensuite, il y a aussi toutes nos publications. Alors, je vais en citer au moins deux. Hein, L'Impertinent, le bulletin du département, hein, qui va paraître prochainement. Et puis aussi, La Raison, notre revue mensuelle. Hein, je vous dirai simplement que dans le dernier numéro, vous avez un article de Jean-Marc Chiappa qui nous parle d'un cardinal qui sévit en Corse. Hein, donc je vais vous lire quand même son premier paragraphe. Nous sommes certainement l'organisation qui regarde avec le plus d'acuité les développements de la crise de l'Église catholique. Nous considérons l'Église comme le concentré de la réaction et la concurrence de l'impérialisme US pour ce leadership mérite aussi toute notre attention. Non pas que l'Église, en s'opposant à l'impérialisme pour ses besoins, devienne un défenseur des libertés, y compris quand elle condamne le génocide en Palestine, un caméléon peut prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf le rouge. L'Église peut prendre toutes les positions politiques, sauf la lutte pour l'émancipation. Malheur à celui qui ne voit pas cela. Voilà, il y a, en vis-à-vis presque, un dossier sur le point de vue de notre secrétaire général, Christian Echen, sur un livre de Hamadi Redizi qui s'appelle « S'exprimer librement en islam ». Je vous invite, c'est le dossier central du numéro qui vient d'arriver, que j'ai eu moi en main à 11h30 ce matin. Voilà, eh bien écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, merci à Claudette, Henri et Michel. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Bouches du Rhône de la Libre Pensée, www.lp-13.org. Merci encore à Radio Galère, à Daniel et à Lucien d'Article 25. Au revoir et au mois prochain, le premier mercredi du mois de décembre, c'est-à-dire le 4, comme habituellement.